Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouvelles Portes avec aujourd'hui pour invité Élise. Élise qui me rejoint dans quelques minutes directement chez moi pour qu'on puisse profiter du calme ambiant pour améliorer la qualité du podcast. Parce que la dernière fois, j'ai eu quelques retours par rapport au bruit de fond. C'est vrai que c'est avec le micro-cravate, c'est pas forcément le plus évident. Et puis vu qu'on a récemment aménagé la petite cour intérieure, ça donne une ambiance assez sympa. Donc voilà. Élise, c'est une personne que je connais depuis un petit moment maintenant et qui vient tout droit de Nouvelles Portes, justement. On s'était rencontrés lors d'un des événements de cette dynamique. Élise, c'est une personne qui, dès que je l'ai rencontrée, m'a beaucoup inspiré parce que c'était une personne qui était pleine de sensibilité et surtout très curieuse. Et il semble que maintenant, on commence à avoir quelques axes, que ce soit sur la dimension pro ou sur les réflexions, qui commencent à être vraiment concordant et c'était le moment parfait du coup pour pouvoir arriver à échanger avec elle autour de ses préoccupations du moment, ses sujets. Je la laisserai se présenter beaucoup mieux que moi-même quand elle arrivera juste après. Et puis vous verrez, je pense que les transitions aussi, d'habitude j'utilise les transitions de l'application pour faire les podcasts, mais là je pense que ce sera certainement les doigts d'Élise qui joueront les transitions. Je pense que vous pourrez apprécier. Voilà, allez, sans plus attendre, je vous laisse avec notre discussion et les trois sujets d'Élise. Bonjour Élise et merci d'être venue pour ce nouveau podcast de Nouvelles Portes. Alors, je te laisse commencer par te présenter un petit peu.
Ouais.
Ouais.
Bah déjà, merci de m'accueillir. Je suis ravie depuis le temps. Que dire? C'est jamais facile de se présenter parce qu'on ne sait jamais quelle casquette utiliser, métier, personne. Je crois que je vais commencer par personne.
Personne.
Parce qu'en ce moment, je suis dans ma phase, le développement de soi, donc je trouve ça pas mal. Ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que je suis une grande curieuse et je pense que c'est ce qui nous a rapprochés. Oui. Je suis une curieuse de la vie, des sujets, multiples sujets, et je me découvre multi-casquettes. Donc, si on m'avait demandé une présentation il y a à peu près un an de ça, j'aurais été très différente, je crois.
Ouais.
Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui m'anime, c'est le mieux-être individuel, collectif et sociétal, et qu'aujourd'hui, ça prend forme dans divers projets professionnels, personnels, et notamment des projets qui s'amorcent, puisque je sors d'une année de transformation, reconversion, réalignement. Et donc des projets qui s'amorcent dans ce sens-là. J'entame notamment un travail, un doctorat, donc une thèse de sociologie sur la transition sociétale à l'échelle des territoires. J'entame également des projets d'accompagnement individuel et collectif sur, en gros, l'idée de se réaligner avec ce qu'on est, se reconnecter à son potentiel, finalement trouver un peu son chemin. Et parce que le corps, pour moi, c'est aussi important, j'entame aussi des formations en soins énergétiques et en massage.
Mmh.
Voilà, parce que je pense que ce qui me définit aussi pas mal, c'est le côté global et systémique. Et que du coup, de lier l'intellect, le corps et tout ce qui rentre, ça m'intéresse beaucoup.
Je suis content, il y a un mot systémique qui est sorti, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, pour une fois. Ça change comme ça.
Voilà.
Ok, d'accord, donc toute la partie corps. Du coup, sur cette partie-là, tu as quoi comme activité
Pour l'instant, je ne pourrais même pas parler d'activité, parce que c'est des projets en formation. Moi-même, je me forme déjà pour me rapprocher de ça, parce que j'étais, je crois, quelqu'un de très intellectuel, et que finalement, ça me parle aujourd'hui, là où j'en suis, de reconnecter tout ça. Corps, esprit, ça me parle aussi beaucoup. Donc j'entame des formations en Reiki notamment, formation de niveau 1 que j'avais déjà passée il y a un an et demi, on avait pu un petit peu en parler. J'ai réactualisé mon niveau 1 parce que je n'avais pas pratiqué entre-temps et j'ai le souhait de me reconnecter à ça parce que finalement dans l'énergétique il y a quelque chose qui me touche aussi beaucoup, lié un petit peu à tout ce qui est, mais j'en aurai peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais de l'intuition, du global, de la connexion entre les personnes, entre les êtres, etc. Ça me parle et je trouve que ça fait aussi beaucoup de sens avec le reste finalement, avec la transformation personnelle, avec la transformation collective, Pour moi, c'est une méthode comme une autre. C'est juste une autre façon de le faire, d'accompagner, de faciliter, de réaligner, etc. D'accompagner le changement.
Ouais, c'est
C'est
intéressant.
une des façons.
Tu as beaucoup de parallèles du coup sur. Enfin, t'as les trois dimensions, quoi. La dimension collective, la dimension personnelle et la dimension plus liée au corps.
C'est ce que je souhaitais faire et en ayant plusieurs entrées, portes d'entrée, même si pour moi, au final, c'est à peu près tout la même chose. C'est juste qu'on l'aborde d'une façon différente et en fonction des personnes et des collectifs que j'aurai en face de moi, c'est pouvoir les accompagner d'une façon qui fasse sens pour eux au moment où ils en ont besoin, etc. Voilà, c'est l'idée de la pluralité qui est aussi intéressante du coup.
C'est vrai. Ok. Bon, sans transition, du coup, on peut aller sur ta première curiosité.
Ouais, bah du coup, ma première curiosité, elle est un petit peu liée à tout ça. On l'appellera, il y a plusieurs façons de la nommer, mais ce qui me vient, le mot qui me venait très fort, c'était alignement. C'est l'idée finalement, comment on aligne qui on est, ce qu'on dit, le discours, et puis l'action, comment on se met en mouvement dans tout ça, comment on crée finalement de la cohérence, déjà vis-à-vis de soi, et puis après vis-à-vis des autres et de notre environnement au sens global, hein, pas que planétaire ou écologique, mais de l'environnement tout court.
Ok.
Voilà.
Et donc du coup, toi, comment tu t'appréhendes le sujet?
Ben, je pourrais l'aborder de façon très théorique, mais moi je l'ai vécu de façon expérientielle pendant une année, donc c'est peut-être ce qui va me venir en témoignage du coup. Pour moi, ce qui a été le réalignement, ça a été d'abord de sentir qu'il y avait quelque chose de pas aligné. Corporellement, par les sensations, c'est-à-dire que je pense que oui, c'est possible d'analyser, de se dire, bon, ben là je suis pas alignée entre mes convictions et ce que je suis en train de produire, mais peut-être qu'il y a une autre façon aussi, c'est de se reconnecter à nos sensations et de sentir en fait quand les choses ne sont pas justes. Et finalement, moi, je ne savais pas faire ça, vu que j'étais beaucoup dans l'intellect. Et c'est tout simplement le corps qui a parlé. Hein. Il y a un an, j'ai fait l'inverse dans le burn-out. J'ai fait un bore-out. C'est-à-dire qu'à force de plus trouver de sens dans ce que je faisais et de m'ennuyer beaucoup, ben, un jour, le corps n'a plus suivi, quoi. Donc, de fait, j'étais obligée de m'arrêter et de me poser la question de mais qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Où je vais? Mais c'est quoi mon talent? C'est quoi mes aspirations? En gros, qu'est-ce que je fous, quoi? Et au départ, c'est très effrayant d'avoir ce vide face à soi, c'est-à-dire qu'on n'a plus de cadre, qui est le cadre du fonctionnement de la société, un travail, un logement, etc. Et on se retrouve face à ce vide. Et finalement, et ben le vide permet peut-être quand même de se retrouver, paradoxalement. Et de commencer le chemin, et ça peut passer. Il y a plein de façons de le faire. Moi, ça a été beaucoup par le vécu, donc plein d'expériences, de rencontres, d'ateliers, d'expérimentations. On tâtonne, là ça sonne juste, là ça sonne faux. C'est apprendre à sentir aussi les moments où c'est tout simplement connecté, aligné, justement.
Et tu disais qu'à l'origine, c'est ton corps qui t'a donné l'information comme quoi c'était
Ouais. Ben,
ça
j'écoutais
l'arrêtait.
pas. Ben, il y avait sûrement d'autres signaux et que maintenant peut-être que je serais plus à même de les sentir, de les percevoir. Il y a un an, effectivement, c'est le corps qui a dit stop, c'est-à-dire que c'est comme un burn-out, c'est-à-dire que le burn-out, le corps ne suit plus, il ne se lève plus, il ne veut plus agir. Ben, là, du coup, c'est pareil, c'est-à-dire que le corps, effectivement, ne répond plus. Il veut plus se lever, il est vidé de toute énergie
T'étais complètement
vitale.
crevé, quoi, et tu pouvais plus rien faire.
Plus rien faire.
D'accord.
C'est-à-dire que même me lever le matin, c'était très très compliqué, quoi. Physiquement, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus forcément de mouvement, d'énergie vitale qui suivait pour même les choses du quotidien, la vaisselle, le ménage.
Et ça a duré combien de temps, ça?
Je pense que j'ai eu de la chance, et que c'est aussi peut-être dans ma personnalité de toujours vouloir rebondir d'ailleurs, mais pas très longtemps, un mois, 2 mois, je pense que ça peut durer bien plus longtemps. Donc je considère que dans ce sens-là, ça a été assez court. Et parce que j'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment, d'être ouverte, je crois, à une réflexion. On peut subir ça et se dire, bah, le subir justement. Ne pas se poser la question du pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça me transmet comme message, quelle est l'énergie qu'il y a derrière, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Moi, je crois que j'étais déjà dans cette réflexion-là un petit peu. Donc ça a ouvert la porte vers quelque chose. Ce que juste j'ai dû lâcher, c'est vers quoi? Qu'est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que je vais faire? Ça, je savais pas. Et ça a été le lâcher prise de bah, je suis dans le vide, je sais pas, j'en sais rien, et pour l'instant, j'accepte qu'il y ait du rien. Et ça a été des rencontres, d'ailleurs, pas mal à la rentrée au sofa en septembre dernier, plusieurs rencontres où juste ça m'a réconforté dans cette idée du accepter le vide. Il y avait notamment un atelier super, le design de soi, où vraiment c'était ça l'idée. Il y avait même une image très forte,
L'atelier de Marie-Cécile.
voilà exactement, sur l'idée de se jeter dans le vide, se jeter de l'autre côté de l'escalator dans la mer, quoi. Et je trouve que c'est très parlant. Et si je pense qu'au contraire, le moment où j'ai lâché, j'ai sauté, comme on le dira, que tout s'est déroulé finalement. Et je pense que quand, des fois, quand on lâche prise, et quand on apprend à se reconnecter à ce qui sonne juste, à ce qui fait sens, ce qui provoque de la joie aussi, c'est se reconnecter à la joie, et ben petit à petit, les choses se mettent en place. Et de fait, on se reconnecte avec des choses où on se sent à sa place, finalement.
Ok.
Voilà.
Et du coup, il y a pas mal de personnes que je rencontre justement qui me parlent aussi de cette idée de se dire bon, bah vas-y, on se jette, on y va, quoi. J'en avais parlé avec Marie-Cécile. Et après, il y a toujours la même barrière qui revient tout le temps, celle de l'argent. Et cette peur qui te dit bon, bah en fait, c'est cool de lâcher prise, mais à un moment donné, il va quand même falloir que j'aille faire mes courses et que j'aille acheter des trucs pour manger. Et du coup, tu as réussi à lâcher prise aussi sur cette peur-là, ou est-ce qu'elle est encore là régulièrement, mais que tu l'as un peu domptée et que tu peux jouer un peu avec?
Ouais, c'est une vraie, vraie belle question. Parce que je pense que j'ai déjà voulu faire ce saut dans le vide et qu'à l'époque, cette question de l'argent, la peur, en fait, la peur et le conditionnement étaient tellement forts que j'ai pas réussi et que j'avais essayé un truc un petit peu entre deux, de faire un boulot alimentaire, garder un boulot qui me convenait pas trop, mais de le faire à mi-temps pour me laisser l'espace pour autre chose. Et je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et je veux pas porter de jugement parce que chacun fait comme il peut et aussi avec les responsabilités qu'on a. C'est-à-dire que moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjoint, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de dire bah ouais, moi j'ai tout lâché au risque de vivre avec très très peu. Je parle que pour moi là en disant ça. Mais effectivement, pour moi, ça s'est débloqué quand j'ai accepté cette terreur que j'avais du manque d'argent et d'accepter bah, de vivre de très très peu.
Attends, je te remets juste le micro en place, parce que sinon, ça va rien entendre. Voilà, là c'est bon.
Donc de vivre de peu et donc d'accepter de la peur. La peur, l'angoisse et de du coup la travailler au quotidien. C'est vrai que tout mon style et mon rythme de vie ont dû changer. J'ai dû réajuster beaucoup de choses. Hein. Mais la fréquence à laquelle je voyais où je sortais, je voyais mes amis où je sortais, mes activités extra-professionnelles que j'ai dû arrêter si c'était des cours et le faire autrement, tout s'est réorganisé finalement. Et c'est vrai que c'est très effrayant. Mais je crois que l'objectif de réalignement était presque vital pour moi et que du coup ça prenait le pas sur ça. Et que je crois qu'il y avait presque du challenge et c'était presque d'un côté un peu. Excitant que de se dire est-ce qu'on peut faire autrement? Et est-ce que si je découvrais qu'on pouvait faire autrement, est-ce que j'aurais pas un autre rapport à ça plus tard? Et je crois que j'avais envie et besoin d'aller dans ce sens-là.
Et donc, tu as été même curieuse sur une autre manière d'appréhender ta réalité, en fin de compte.
Ouais.
Parce que ta réalité, du coup, a évolué et a complètement changé.
Complètement.
Si tu as changé tes habitudes, tu as changé
Complètement.
tes routines, tu as
Ouais.
changé la manière de voir les gens, tu as
Ouais.
changé
Mais
même à
parce
consommer.
que je crois que j'étais guidée par la peur. Je crois que je suis restée très longtemps dans une non-connaissance de moi profonde dans mes métiers, dans mes relations, et qui faisait que tout ça, en fait, qu'est-ce qui faisait que ça ne bougeait pas? Ça venait de moi, bien évidemment. C'est la peur de qu'est-ce qui se passe si je fais autrement, qu'est-ce qui se passe si je lâche et que je reconstruis. Et l'argent en fait partie. C'est une des facettes de la transformation. Qu'est-ce qu'on fait si on saute dans le vide, quoi?
Est-ce que tu considères que ta transition que tu as eue là, c'est quelque chose qui se fait de manière douce, progressif, ou est-ce que c'était une sorte de déclic comme des fois certaines personnes ont, et après le déclic ça s'est enchaîné ou...
Je crois que j'aime beaucoup le mot complexité. Pour moi, c'est pas du tout linéaire. Pour mon expérience personnelle, ça a été brutal. Il y a eu un gros déclic, gros changement, et puis après quelque chose de progressif qui s'est construit, et puis voilà, qui a pris forme, mais avec des avancées vraiment significatives, suivies très peu de temps après des fois de recul et d'angoisse, de doute, de mais qu'est-ce que je fous? Il faut que je bosse. Comment je vais faire pour vivre? Et puis une semaine après, finalement, ça réavance. Je ne crois pas que ce soit possible que tout se déroule de façon linéaire, parfaite, dès le moment où on décide de se réaligner. J'y crois pas. Pour moi, c'est vraiment de la construction. On tâtonne, on tricote, on garde des éléments qui sont importants, on fait des compromis sur d'autres. Et finalement, c'est un cheminement. Et même si aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la sensation d'avoir opéré une transformation, mais rien n'est acquis. C'est-à-dire que ça se trouve dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je referai autre chose, un autre processus évolutif, parce que je crois que c'est constant. C'est juste que des fois, bah, il y a des caps un peu plus tranchants que d'autres, et c'est ce qui s'est joué là. Mais pour moi, non, ça c'est beaucoup plus complexe et entremêlé que ça. Et peut-être que le fait que ce soit complexe et entremêlé, il y a un côté rassurant. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, vous n'êtes plus ce que vous étiez, vous changez complètement. Ça, ce serait terrorisant, même si on souhaite le changement. Se dire que peut-être on évolue et qu'on reste soi tout en étant autre, finalement, c'est l'idée de la transformation de la chenille que j'aime bien en papillon. On reste soi quand même là-dedans. Donc c'est à la fois brutal, à la fois très doux et linéaire. J'aurais du mal à répondre à cette question-là, parce que pour moi, c'est un peu
Non, mais
tout
tu as bien
en
répondu.
même
Du
temps.
coup, c'est une version plus complexe et
Ouais.
que je comprends bien parce que je vis la même chose continuellement. Là, je suis d'accord avec toi sur le fait que des fois, tu vas être dans une phase où t'as tout qui semble fluide et qui déroule, et du coup tu dis c'est bon, j'ai trouvé mon petit rythme et tout. Et puis d'un coup, rupture de rythme, comme l'anecdote de ce matin avec le fait que j'oublie ma clé pour ouvrir la porte de la maison et du coup le serrurier doit venir et ça me bloque ma matinée. Bref, des aléas en fait continuent. Là c'était un léger, mais après il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir un échec, comme on pourrait dire,
Ouais.
professionnel ou personnel. Et du coup, ben, c'est cette notion de rebondir à chaque fois et de rebondir encore. Donc oui, c'est une sorte de jeu qui ne s'arrête jamais, quoi.
C'est ça. Et on peut le subir et on peut le voir comme tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on peut le voir comme un jeu. Et je crois quand même que même si c'est évolutif, complexe, non linéaire, ce qui peut aider, c'est d'avoir quand même une espèce de vision. Un petit peu une espèce de direction vers laquelle on souhaite aller, quelque chose qui nous guide, qui nous motive, une force un peu comme ça d'envie, et qui, même s'il y a du mouvement et voilà, un cheminement qui se fait et qui peut prendre plusieurs routes, et ben finalement, ça nous drive, quoi. Et ça, peut-être que ça permet de dépasser les obstacles, les échecs, les cassures de rythme, les remises en question, parce qu'il y en aura. Il y en aura forcément une multitude.
Et toi, là, tu définirais que tu as trouvé ta direction pour le moment, un petit peu?
La direction, elle est en elle-même évolutive, mais oui, bien sûr. Je crois que c'est ce qui m'a permis de gérer le fait que depuis un an, je suis sans domicile. Je change de logement tous les 15 jours, 3 semaines, que je vis avec très peu et que en soi, c'est effrayant. Et pour moi, c'était vraiment un challenge énorme. Mais effectivement, d'avoir cette direction d'alignement, de cohérence et de vision pour moi-même et sociétale que j'avais, qui était très forte, finalement, ça a dépassé tout le reste et ça m'a donné l'élan pour continuer et pour me connecter à d'autres surtout. Pour me connecter à d'autres qui étaient dans les mêmes dynamiques, avec qui ça faisait résonance, tout ça. Et je me suis surtout nourrie de ces interactions. C'est-à-dire qu'au départ, on commence tout seul avec son cheminement et ce qui permet l'impulsion et des fois la concrétisation, peut-être même souvent la concrétisation, c'est les interconnexions, c'est les rencontres qu'on fait, c'est toutes ces personnes qui nous apportent, qui nous nourrissent. C'est en ça que c'est absolument fabuleux. On n'est jamais seul finalement dans ce cheminement, même si on l'est quand même un petit peu.
Oui, tu arrives vraiment à sentir maintenant que t'es pas seul là-dedans, dans cette parce que
Ouais.
la direction, moi des fois j'aime bien l'avoir un peu comme un cap et te dire que bon bah t'es dans un bateau et puis pendant un certain temps tu vas dans une direction, bah, après elle peut changer bien entendu, du coup c'est ça, c'est le revirement un petit peu de barque quoi. Et puis des fois toi t'es dans un bateau, t'es tout seul. Mais là, ça peut être un peu compliqué parce que vu qu'on est humain et qu'on est social, c'est un peu compliqué. Soit sinon, du coup, tu es dans un bateau et tu as d'autres personnes. Du coup, là, tu sens que dans ton bateau, tu as d'autres personnes qui sont là avec toi pour naviguer.
Je ne sais pas si c'est dans mon bateau, en tout cas, dans l'océan où je suis, il y a plein de bateaux autour de moi. Des bateaux qui sont des fois connectés entre eux, des fois pas, mais juste à côté et qui vont dans le même, qui suivent le même cap. Des fois, peut-être, c'est possible qu'il y ait quelqu'un dans mon bateau aussi, mais du coup, on peut switcher d'un bateau à l'autre. J'ai cette vision-là, un petit peu. Une espèce de multitude de bateaux qui peuvent des fois s'interconnecter, ou s'ils ne s'interconnectent pas, ils sont reliés quand même par quelque chose d'abstrait. En tout cas, peut-être que cet abstrait, c'est leur cap commun. Je crois que j'ai cette vision-là, voilà, un petit peu. Ça fait écosystème, quoi, un petit peu. Une connexion de choses qui, des fois, se recroisent, à d'autres moments, ne se croisent plus, mais se croisent avec d'autres. Et moi, en ce moment, en tout cas, à l'échelle de ce que je peux vivre, c'est l'image que j'ai. C'est des groupes avec lesquels je me connecte à certains moments, avec d'autres à d'autres moments. À des moments, je suis seule et j'évolue seule. Enfin, tout finalement, c'est des ressources. C'est des ressources où aller puiser, où s'interconnecter et agir ensemble et s'engager ensemble, peut-être aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un lien très très fort entre la transformation personnelle et collective. C'est-à-dire que l'un nourrit l'autre et vice-versa. Et que l'un n'ira pas sans l'autre, dans tous les cas. Puisque on est, comme tu l'as dit, un être social et la société dépend aussi des individus. Elle est constituée d'individus aussi et de leurs interactions. Les interactions entre les parties font le tout. Et du coup, en ce sens-là, se transformer soi et transformer nos façons d'être ensemble et de se connecter, pour moi, c'est déjà se mettre en mouvement vers autre chose, en tout cas.
Et dans cet océan d'interconnexion et de complexité, est-ce que des fois ça fait pas trop? Du coup, on peut pas se perdre un peu dans cet océan quand on a vraiment de partout. Première question. Et deuxième, est-ce que justement, si tu sens que tu te perds, tu arrives à définir quand même des priorités ou des choses que tu dois comment dire, acter ou rejoindre dans un certain ordre?
Ça me fait sourire parce que c'est mon challenge du moment.
D'accord.
Ouais, si, tes questions, c'est le choix et
C'est le fait que ben, quand tu
est-ce
as.
que c'est pas trop et les priorités,
Voilà,
c'est
c'est
ça?
ça. Quand t'as des possibilités dans tous les sens. Des fois, on a l'esprit où on se dit, bon, de toute façon, je peux plus rien faire. Voilà, je suis bloqué. Donc, ça, c'est peut-être la partie un peu quand t'es en burn-out ou quand t'es coincé. Puis après, derrière, tu ouvres le champ des possibles et tu te rends compte qu'en fait, il y en a de partout, quoi. Tu as la dimension sociale, la dimension personnelle, la dimension énergétique, la dimension, en
C'est
fait, tu
ça.
vois. Et comment est-ce que là-dedans, arriver à mettre des priorités pour se
C'est
dire, bon,
ça.
bah, aujourd'hui, je me lève, puis je vais faire ça, et puis après, je vais faire ça, et je vais rencontrer telle personne,
Ouais.
comment?
Très bonne question. Bah, du coup, j'en discutais hier avec une personne issue de ces rencontres, justement. Et je crois que ce qui m'est venu comme élément de réponse, c'est que ça dépend des phases. C'est-à-dire que dans la phase post burnout, on va dire, la phase initiale où on opère la transformation, je crois que enfin, il me semble que c'est peut-être normal, entre guillemets, qu'il y ait cette multitude de connexions, de rencontres, d'informations, parce qu'on est dans une phase d'ouverture, d'exploration. Donc, c'est à ce moment-là qu'effectivement, il y a le plus d'entrée de matière, d'informations, et donc que le changement est le plus visible, peut-être même. Et puis peut-être que le moment où on se pose la question du ah, est-ce que c'est pas trop et est-ce qu'il n'y a pas des priorités, est-ce que c'est pas aussi le moment où finalement on a commencé à bien être en chemin, bien être aligné et que du coup on s'engage dans des choses. Et que dans ce sens-là, s'engager, c'est aussi fermer en partie l'exploration, même s'il y a toujours une porte ouverte vers l'exploration, mais qu'en tout cas on s'engage sur un chemin, sur plusieurs chemins pour ceux qui aiment la pluralité, dont je fais partie évidemment. Mais dans ce sens-là, mon élément de réponse que j'ai en ce moment, c'est ben, je garde une pluralité de projets, de communautés, et pour autant, je sens que je suis très alignée avec ces communautés-là, ces projets-là, et j'ai envie de m'y investir plus. Et pour ça veut dire du coup mettre un frein ou ralentir en tout cas mon exploration. C'est-à-dire que mon exploration pouvait par exemple représenter, je sais pas, les trois quarts de mon temps. Aujourd'hui, peut-être que ce sera beaucoup moins. Je ne sais pas comment, c'est pas vraiment quantifiable.
Oui, bien sûr, bien
Mais
sûr.
j'essaie d'imager ça et je réfléchis à haute voix, parce que c'est vraiment le challenge que je me pose en ce moment.
Ok.
Mais je crois qu'en tout cas, c'est peut-être le moment où la question du choix, c'est peut-être le moment où finalement oui, on s'engage dans quelque chose. On a envie d'aller plus loin que juste la phase exploratoire où on touche du doigt certaines choses et on cherche aussi des éléments de réponse. Du coup, pour moi, la priorisation, elle se fait peut-être naturellement des moments où on se sent aligné à sa place dans les choses qu'on engrange et qu'on engrange peut-être avec d'autres aussi.
Et là, du coup, ta priorisation de choses à mettre en concret et en action, c'est sur quelle dimension? Sur dimension groupe sociétal, c'est sur le personnel, c'est sur l'énergétique, comme tu disais? Ou est-ce
Ben,
que du coup, quand tu parles de pluralité, t'en as trois, t'en as un dans chaque?
c'est ça.
D'accord.
J'ai pas réussi à. Parce que pour moi, ça ne ferait pas sens que de choisir l'un ou l'autre entre le corporel, l'énergétique, l'émotionnel et l'intellectuel, ou l'individuel, le collectif et le sociétal. Donc pour moi, ce qui a été ma réponse, c'est de me limiter à un projet de chaque et qui permette de répondre à ces trois niveaux de réponse entre l'individuel, le collectif et le sociétal, et le physique, l'émotionnel et l'intellectuel, on va dire.
Tu peux nous en dire plus du coup sur ces trois projets?
Oui, bien sûr. Bah, du coup, et ils sont entre guillemets entremêlés, c'est-à-dire que pour moi, le projet de thèse, qui est un projet finalement qui n'est pas du tout déconnecté du terrain, c'est-à-dire que mon travail, c'est vraiment de faciliter, d'accompagner l'action par la réflexion, et que la réflexion se nourrisse de l'action, donc des actes, ce qu'on appelle entre guillemets les acteurs du changement, c'est-à-dire tous ceux qui ont envie de faire autrement et en gros de changer de paradigme, de créer le monde de demain, si on veut le dire
Ouais.
avec des clichés. Et moi, mon envie, c'est d'accompagner ça. Donc là, on est dans l'accompagnement collectif et sociétal. Et donc dans l'intellectuel, puisqu'on est sur de la réflexion, de la recherche-action. Mais pour moi, c'est très lié, comme je l'ai dit, transformation sociétale à la transformation personnelle. Donc ça fait le lien avec le projet d'accompagnement des personnes pour se reconnecter à leurs envies, à ce qu'elles sont, leur potentiel, et donc trouver un petit peu leur chemin à elles.
Ça, tu fais de quelle manière, du coup, sous la forme de discussion, sous l'échange?
Pour l'instant, je le fais en lien avec deux organisations. Une où je suis bénévole, qui est Active Action, qui accompagne des demandeurs d'emploi dans leur période de transition pour justement se reconnecter à une énergie positive et à se reconnecter à leur potentiel. Et je suis aussi également en lien avec Awake, qui est une start-up sociale qui accompagne les jeunes pour les aider à mieux se connaître, pour développer leur potentiel et trouver leur voie.
D'accord.
Mais à terme, ça m'intéresserait aussi de le faire beaucoup en individuel. Et donc, pourquoi pas de développer l'accompagnement par discussion, coaching, à voir. C'est dans les projets, en tout cas.
Okay.
Mais pour l'instant, voilà, je me suis ralliée à des collectifs où je trouvais qu'il y avait beaucoup de sens dans l'approche, dans la dynamique, à la fois de connaissance de soi et l'intelligence collective. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, tout est lié. Et ces deux organisations font vraiment le lien entre les deux. Et je me suis retrouvée dans leur approche, d'où cette porte d'entrée-là.
Ok, et du coup, tu as fait comment? Tu as juste allé les contacter et tu les as rencontrés et ils t'ont dit, ok, vas-y, viens avec nous.
Voilà.
D'accord. Non, mais...
C'est dans ce sens-là que peut-être quand on est aligné, les choses se font de façon plus fluide et que c'est pas dans la lutte. Et je dis ça, je l'ai vécu dans le sens où moi j'ai eu l'impression de vivre la lutte. J'ai traversé des périodes de recherche d'emploi, des périodes où j'avais pas trouvé cet alignement et donc du coup rien ne fonctionnait. Les offres ne collaient jamais, je me sentais jamais alignée avec ce qui était proposé. Moi je semblais ne jamais coller à leurs attentes et donc je vivais voilà, une sensation d'échec perpétuel. Et effectivement, dès le moment où ça a été beaucoup plus ancré en moi, finalement les rencontres se sont faites naturellement et là il n'y a même plus d'effort. Finalement, puisque de ce qu'on dégage et ce que l'autre dégage, ça crée la rencontre. Et dans ce sens-là, on sait qu'on va dans la bonne direction aussi.
Et t'as pas eu ou tu n'as plus le problème du syndrome de l'imposteur? Parce qu'il y a pas mal de personnes que je rencontre aussi, et même moi, ça m'arrive de temps en temps, de se dire, ben oui, je suis sensible à un sujet, mais je suis pas forcément expert ou quoi que ce soit. Donc du coup, pour arriver à, non, mais après, je me fais la voix. Et ouais, donc du coup, j'ai pas confiance en moi, parce que forcément, je suis pas expert ou j'ai pas assez pratiqué dedans, vu que c'est quelque chose de nouveau. En plus, on est dans une période où la société est pas forcément prête sur certains types de sujets. Et donc du coup, on se dit, bon, ben, en fait, je sers à rien là-dedans et je peux rien faire parce que je suis pas assez expert. Et du coup, vu que je pourrais pas avoir l'expérience, je pourrais pas être expert. Et du coup, ça tourne un petit peu en rond. Et on se trouve à être en situation d'arrêt, alors qu'on a envie de bouger, quoi. Toi, t'as pas eu cette phase-là ou tu l'as encore?
Absolument que si.
Ah, c'est ça.
Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Si, moi c'est constant, hein.
Ah.
Je vis le syndrome de l'imposteur au quotidien. Ouais, j'ai pas de bonne réponse si ce n'est des choses que j'expérimente pour dépasser ça. Et je crois que finalement, quand on est quelqu'un avec une vision globale ou systémique, je crois qu'on est un petit peu condamné à être dans la nouveauté et dans le processus du débutant à chaque fois, puisque pour nous, les connexions se font en horizontale, et dès qu'on va engranger quelque chose, ça va forcément toucher du doigt autre chose qui pour nous sera importante parce que reliée, et donc on va aller l'observer, et on sera toujours dans quelque chose où on découvre. Et même si on n'est pas des experts, c'est aussi important parce que ça apporte d'autres choses qui sont complémentaires. Donc j'essaye de répondre à ce syndrome de l'imposteur en me disant ce fonctionnement apporte autre chose. Et sur certains sujets, j'approfondis un peu sans être forcément expert. Mais en tout cas, je prends le temps de me l'approprier. Et c'est dans ce sens-là où je parlais d'engagement, justement. Il y a des moments où je commence à sentir que j'ai envie d'aller plus loin que juste la phase exploratoire du dessus, de surface. Et dans ce sens-là, on ne devient pas forcément expert, mais en tout cas, on s'approprie le sujet et on commence un peu à être à l'aise pour en parler, on va dire. Et puis, de toute façon, quand on est dans des postures d'accompagnement, de facilitation, on nous demande moins la posture d'expert, puisqu'on accompagne des personnes qui, elles, sont en posture d'expertise. Et finalement, notre rôle, c'est aussi de poser les bonnes questions, d'apporter un éclairage, de prendre de la hauteur ou du recul, et de finalement faire en sorte que tout ça aille dans la bonne direction, si tant est qu'il y ait une bonne direction. Ce que je veux dire, c'est que ça aille dans la direction que les personnes souhaitent. Donc dans ce sens-là, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expertise pour nous, en tout cas? Je ne sais pas.
Et est-ce que tu sens que cette posture, justement, de facilitateur, elle est bien reçue actuellement ou c'est encore très difficile difficilement compris ou
Ça dépend des
ressenti
endroits.
comme étant nécessaire. Oui, tu arrives à trouver des endroits où
Ça dépend des
c'est
endroits
fluide.
et peut-être que ça dépend de la façon de le présenter. Peut-être que des fois, les étiquettes font peur, les mots font peur. Peut-être que de se positionner, des fois on dira le mot facilitateur, des fois on dira accompagnement, des fois, je
Oui, on
sais,
pourra dire médiation, on pourra dire.
médiation, je pense qu'il y a des mots à trouver. Je pense qu'il y a toujours l'idée de s'adapter à son interlocuteur et de s'adapter au projet. Donc on va faire en sorte que ça puisse faire du sens pour la personne avec qui qu'on a envie d'aider finalement. Je ne sais pas si c'est toujours bien reçu. En tout cas, c'est vrai que la posture de la personne qui est toujours en exploration et pas forcément en approfondissement d'expertise, c'est pas toujours facile. C'est plus dans ce sens-là que j'ai perçu qu'il y avait des freins que dans la posture de facilitation qui, pour moi, est le liant qui va faire en sorte que cette transformation qui est à l'œuvre, finalement, puisse s'accélérer, se démultiplier, s'essaimer. Pour moi, la réponse, elle est dans les interconnexions. Et pour les interconnexions, il faut bien des facilitateurs, il faut bien des liants et qui soient incarnés par des personnes. Donc,
Donc, tu ne penses pas qu'on peut faire ça qu'avec le numérique et des plateformes numériques? Non, c'était pour
eh
la
ben, je
petite,
crois pas, oui.
c'était pour le petit troll par rapport à ce qui se passe depuis quelques années. Voilà, parce que.
J'ai pas assez d'éléments de réponse parce que c'est un monde que je connais mal et que je crois que je suis profondément humaine. Même si j'utilise bien évidemment les plateformes, la connexion, et que c'est grâce à ces outils-là que je suis là. Donc j'adore. Mais pour moi, on ne peut pas exclure la facilitation humaine de ça.
Je suis
Voilà.
d'accord avec toi. Après, c'était pour faire l'analogie par rapport à ce que je peux voir quand je travaille en entreprise, justement. Sur le fait que depuis des années, ils veulent mettre des plateformes en place, ils veulent utiliser plein d'outils, et ils se disent qu'en fait, avec des outils numériques, forcément, vu que ça peut connecter les gens, alors dans ce cas-là, les gens vont se connecter, puis que de eux-mêmes, ils vont enclencher des choses, des projets, des machins.
Mais c'est super, et tant
Et
mieux.
non, non, mais ce qui est une bonne base, mais
Ouais.
justement, ils étaient capables jusqu'à maintenant d'engager énormément d'argent dans le développement de solutions numériques, parce qu'il y a cette espèce de cargo culte du numérique qui peut changer le monde. Et puis là, c'est un peu en train de transitionner, justement, de se rendre compte que, ben oui, le numérique est un bon support, mais qu'il faut quand même des personnes humaines qui sont là pour pouvoir gérer justement ces interconnexions. Donc c'est intéressant de.
Pour moi, rien ne se fait dans l'exclusion. J'ai du mal à voir les choses en rupture, c'est-à-dire que pour moi, on a besoin de tout. Tout ce qui peut être utile, tout ce qui est outil et ressources, mais pourquoi pas? L'idée, c'est de piocher les bons outils au bon moment, mais voilà, ça pourra jamais vraiment exclure le fait qu'il y ait besoin que ce soit incarné et porté,
Il
tout
faudra
simplement.
aussi payer ces gens-là pour qu'ils puissent faire leur boulot.
Et il faudra aussi payer ces gens-là pour qu'ils puissent faire leur boulot, parce que la facilitation, puisqu'elle sera le liant de ce mouvement qui est en marche, c'est donc une clé nécessaire. Et ce qui est donc nécessaire, c'est nécessaire qu'on s'engage à le soutenir, et donc financièrement aussi, naturellement.
Donc tu vois vraiment cette posture comme étant des petits points d'ancrage qui sont en train de s'installer un peu de partout dans la société et qui vont permettre de fluidifier justement tout ce qui s'y passe.
Ouais. Pour moi, ça peut être une personne, comme ça peut être des outils d'interconnexion, comme ça peut être des organisations dont la vocation est de rassembler et de faire des croisements. C'est pas forcément des individus isolés. Donc ces points d'ancrage, je les vois prendre racine sous des formes différentes. C'est des lieux, c'est des personnes où finalement les choses se croisent dans toutes leurs contradictions et leurs différences. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'à demander, des fois il y a des puristes de la transformation, c'est-à-dire, oui, pour se transformer, pour changer le monde, il faut vraiment agir comme ça et de cette façon-là. Et je pense que tout est beaucoup plus complexe. Et soi-même, c'est avoir l'humilité de se regarder et de voir à quel point on est complexe et contradictoire. Moi-même, je suis une multitude de contradictions vivantes. Et pour autant, je garde le cap, j'avance. Et pour moi, ces points d'ancrage, ces lieux d'interconnexion, ces espaces de croisement, c'est aussi l'espace où on peut se rencontrer dans toute cette diversité. Et plutôt que de le voir comme un frein, pourquoi pas le voir comme une richesse? C'est formidable d'être contradictoire, c'est formidable d'être multiple, c'est formidable dans tout cas, malgré tout ça, avoir envie d'autre chose et d'avancer ensemble dans cette direction. En tout cas, moi, c'est l'optimisme que j'ai. Mais hier, j'étais à un atelier au Dialogue en Humanité, un atelier qui s'appelait Collapsologie ou Alternative. C'était
Ah.
très intéressant. Et je vois bien effectivement qu'il y a aussi une force très forte de se dire, mais il faut être réaliste, il faut observer la réalité et les défis. Et donc, il y a une part très sombre dans tout ça. Mais je ne peux pas m'y résoudre. Donc, je garde quand même cette idée que dans tout ce qui se joue, Dans les croisements, dans les rencontres, il y a quelque chose, quand même, une force créatrice qui émerge que je trouve très, que je trouve formidable.
Donc tu restes sur une dimension plus optimiste et utopiste que
Ouais.
dystopique.
Absolument, absolument. Et je crois que, par contre, le travail que j'amorce, c'est de redescendre sur Terre. Moi, je suis très perché. Donc, c'est de me rendre compte que l'utopie, il faut qu'elle soit réaliste. Et c'est-à-dire qu'il faut allier le pessimisme de l'intelligence à finalement l'optimisme de la volonté. C'est une citation de je ne sais plus qui, donc je ne me l'approprie pas, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment ça. Je crois que pour garder l'optimisme, il faut quand même qu'il soit conscient, un optimisme conscient, évidemment qu'il y a des défis majeurs qui nécessitent des réponses rapides et de court terme, mais moi, ce qui m'engage, ce qui me motive, c'est le travail de fond qui est en train de s'amorcer, de changement des consciences, de changement de paradigme. Et les facilitateurs qui accompagnent ça, c'est presque de la pédagogie finalement, et oui, de la facilitation, c'est vraiment le mot. Et c'est ça qui me passionne et qui me fait vivre. Et voilà.
Et si on prend le point de vue, on prend l'axe sociétal, donc vraiment société, qu'on parlait de ça de manière assez macro. Toi, du coup, tes actions que tu veux mettre en place par rapport à ta recherche, qui du coup sera directement convertie sur des actions terrain, là-dedans aussi, il y a une grande diversité de choses et de priorités à trouver. Et du coup, est-ce que tu as déjà détecté les priorités sur lesquelles tu penses qu'il faut agir sur cette couche macro-là?
Alors, disons que déjà, parce que je suis au tout début du travail, donc je voudrais pas m'avancer trop. En tout cas, ce qui me semble important, c'est de nécessairement, même si mon but est d'accompagner le travail de terrain, quand même d'apporter un éclairage macro. Parce que pour moi, le local et le global sont interconnectés. C'est Edgar Morin qui le dit très bien. Le global influe sur le local influe sur le global. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Donc forcément, je vais quand même avoir à cœur, et parce que je suis comme ça, j'ai une vision systémique, je ne peux pas faire autrement. Donc je vais avoir à cœur quand même d'introduire l'accompagnement de l'action par quand même une réflexion macro. Donc ça va être quand même, dans la phase initiale de mon travail, ma priorité. Néanmoins, ma deuxième priorité, ce sera vraiment d'être à l'écoute des problématiques qui émergent du terrain, puisque mon idée n'est pas du tout d'être hors sol, mais de partir de ce qui se fait et de ce que les gens font déjà, et des connaissances qu'eux-mêmes ont déjà engrangées, parce que la connaissance n'est pas produite que par les chercheurs, au contraire. Donc ma deuxième priorité, ce sera vraiment de me nourrir de ce qui émerge là. Et finalement, la posture de sociologue, c'est pas de dire je vois ça, j'ai raison et voilà la vérité. Au contraire, moi, ma posture, c'est encore une fois de la facilitation, mais autrement, c'est d'observer ce qui est en train de se jouer, de le relier à des enjeux plus globaux, plus complexes, et en même temps d'observer ce qui se joue et comment l'accompagner au mieux pour que ça puisse répondre aux priorités, aux objectifs qui se sont donnés eux-mêmes, finalement. Voilà, donc ce sera des objectifs temporalisés. Dans un premier temps, le macro, dans un deuxième temps, l'écoute vraiment du micro, et comment tout ça ensuite peut se relier. Ouais, pour l'instant, c'est à peu près ce que j'ai en tête, mais comme je suis très ouverte au changement et à me laisser impacter par ce que j'observe et par les gens, ça va être amené à bouger, mais beaucoup. Toutes les rencontres, toutes les lectures, tout ça me transforme au quotidien, transforme la réflexion. Finalement, c'est mon cap, encore une fois, qui va me guider. Mais puisque j'ai envie de me mettre au service du terrain et de ce qui se joue ici, dans cet écosystème, bah, je vais me laisser transformer par ça.
Et là, au ressenti, juste au ressenti, hein, on a le droit de se tromper, justement, vu qu'on ne sait pas tous les deux. Mais s'il y avait des axes prioritaires pour toi, ça serait sur quoi? Ah, dans la ville de Lyon. Alimentation, urbanisme, pollution, qualité de l'air, qu'est-ce qui émergerait?
J'arrive jamais à répondre de façon sectorielle. Je suis désolée, j'arrive pas à répondre à cette question. Parce
Bah, si par exemple,
que
toi.
pour moi, c'est ce qui va parler pour moi prioritaire, et je sais qu'on me le dit souvent, oui, mais ça sert à rien, au bout d'un moment, il faut agir. Oui, mais pour moi, ce qui est prioritaire, c'est le socle commun, c'est-à-dire c'est cette culture commune, et cette culture commune qui se joue dans les interconnexions, dans finalement ce qui se joue de commun, bah, dans toutes ces initiatives qui seront sectorielles de pollution, santé, ce qu'on voudra. Pour moi, c'est les interconnexions et ce qui va faire commun entre tout ça qui va garantir en tout cas une cohérence et une mise en mouvement collectif vers quelque chose d'intéressant et de nouveau. Et donc pour moi, la priorité, c'est, oui, on pourra, je ne sais pas comment vraiment le nommer, la culture commune, la pédagogie, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, la priorité, c'est ce qui fait commun dans toute cette diversité de priorités d'action, finalement. Donc, je n'arrive pas à répondre de façon sectorielle. Pour moi, la priorité, c'est de créer ce lien et de pas s'isoler dans nos actions. Parce que finalement, même si on parle d'un projet, je ne sais pas, sur la gestion des déchets, tout est lié. Donc, on ne peut pas penser sectoriel. Donc, pour moi, même si on fait un projet sur le traitement des déchets, c'est important de se poser la question qu'est-ce que ça touche au niveau des autres domaines. Et pour moi, pour faire ça, c'est important de se relier aux autres, c'est de penser interconnexion et globale. Donc, c'est cette culture commune du changement, cette culture du changement de paradigme qui, pour moi, crée le socle commun à ce mouvement-là et qui, à mon sens, est vraiment important.
Oui, je comprends, ouais. Après, oui, c'est ça.
Et après, ça se décline.
Mais je te demande ça parce que moi, je suis dans les mêmes réflexions
Mais
en ce moment.
c'est que ma vision
Mais oui, bien
et je
sûr.
suis toujours ouverte à avoir d'autres visions et souvent je change d'avis. Voilà, je suis comme un débat mouvant à moi toute seule. Mais en tout cas, voilà, je crois quand même que c'est ce qui m'apparaît essentiel parce qu'une fois qu'on a quand même ça, et même si certains diront oui, mais on passe, c'est de la masturbation intellectuelle, quoi. En gros, on passe notre temps à
Oui.
discuter des enjeux, quel est le sens derrière tout ça? Et moi, la réponse que j'ai envie d'apporter, c'est tellement important ce socle que oui, il vaut mieux en reparler régulièrement et se recroiser régulièrement et se réactualiser les choses et se remettre d'accord et se recréer du désaccord perpétuellement. Ça va permettre de continuer de nourrir l'action. Je crois que c'est indissociable de l'action. Les deux s'alimentent.
Et l'action, du coup, ouais, on laisse émerger un peu ce qui vient
L'action
par
va
la modification
découler.
de cette culture, c'est
Pour
découvrant.
moi, l'action, elle est l'élan vital qui va sortir de tout ça.
Mais c'est qui va la
Et
faire sortir tout ça?
chacun d'entre nous, on va tous passer à l'action, on passe à l'action chacun à notre façon. Certains seront plus dans la facilitation, certains sont plus dans la création, certains sont plus dans l'observation. Il y a plein de postures différentes, on a besoin de tout ça. Et pour moi, le passage à l'action, c'est une impulsion qui, dans tous les cas, sera vitale et elle se fera. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. Mais dans quelle direction elle se fera, c'est aussi en se nourrissant de ce qui se fait à côté, des éléments qu'on ira
Oui, donc
piocher.
c'est vraiment cette nouvelle infrastructure en interrelation qui permettra d'arriver à avoir une mouvance globale et collective, quoi.
C'est ce qui me semble, parce que je crois que pour l'instant, les initiatives, en tout cas l'action, les actions, la multitude d'actions même qui a émergé en réponse de personnes ou d'organisations qui ont envie de créer autre chose, elles sont là, elles sont formidables, elles incarnent la force créatrice de ce changement qu'on a envie de voir advenir. Et pour moi, tout simplement, ce qui manquait, c'est l'interconnexion. Donc finalement, l'action, elle est déjà là, j'ai envie de dire. Et la parole, elle est déjà là aussi, bien entendu. Mais pour moi, c'est comment on relie les deux. Et c'est d'où l'intérêt, à mon sens, de la recherche-action. C'est comment on relie la réflexion à l'action et que l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr qu'il y a besoin d'action, mais en même temps, bien sûr qu'il y a quand même besoin de réactualiser tout ça et de mettre en commun et de se créer une culture commune. Donc pour moi, l'action, elle est indissociable de tout ça.
Donc il y a tout le travail sur le commun qui permet d'avoir ce lien entre le local
Ouais,
et le
parce que
global.
peut-être que le commun permettra l'essaimage, peut-être que le commun permettra le tremplin pour d'autres initiatives, parce que le commun permet d'identifier aussi les actions et les initiatives. Je crois que c'est aussi Edgar Morin qui disait que finalement, aujourd'hui, il y a déjà des initiatives qui incarnent ce nouveau monde, et c'est génial, mais comment on les accélère? Et peut-être que l'accélération n'est pas que dans le changement d'échelle, ou peut-être que l'accélération, elle est aussi dans l'horizontalité, parce que je crois beaucoup à l'horizontalité, à la coopération, à l'entraide, hein, on en parlait beaucoup ces derniers temps. Et je crois qu'effectivement, ce commun permet ça de façon horizontale. C'est un lieu informel de ressources, d'informations qui permet finalement à d'autres de se saisir de ça et aussi d'agir, pourquoi pas. C'est de l'empowerment, c'est de l'enrichissement mutuel, on l'appellera comme on voudra. Pour moi, c'est une espèce de chose mouvante. C'est comme le tissu interstitiel, je ne sais pas comment on peut dire. Peut-être que c'est aussi relié
La plasticité du cerveau,
ouais,
si on
et
fait une
puis
autre
à la
analogie.
biologie. Mais en tout cas, je crois que ce commun va permettre aussi voilà, l'essaimage de tout ça et peut-être je sais pas comment dire, voilà, le passage à une autre échelle de cette dynamique. En tout cas, c'est ce que je crois. C'est ce que j'ai envie de croire peut-être aussi.
Ouais.
C'est mon côté
Et
utopiste.
tu commences ton observation et ta recherche sur la ville de Lyon, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours l'envie de tout observer, mais on ne peut pas tout observer. Et je suis admirative de ce qui se joue à notre échelle. Je trouve qu'il y a une énergie folle et c'est formidable. C'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de l'accompagner et de l'observer. Donc oui, je vais me concentrer sur le territoire de la métropole de Lyon, en tout cas. Voilà, en tout cas pour le périmètre. Mais évidemment, je reste ouverte toujours à la comparaison, à l'apport d'autres ressources. En tout cas, c'est ces acteurs-là que j'ai envie d'observer, d'accompagner.
Et avec tous les éléments de recherche que tu vas faire, ça serait lesquelles premières personnes auxquelles tu tirerais voix pour leur communiquer tes recherches, pour que ça nourrisse les actions? Parce qu'en fait, pose cette question parce que très souvent, je vois, et même on peut voir dans des reportages à la télé, quand on va dans des associations, la frustration de personnes qui ont lu Hector Morin, qui ont pris conscience de certaines choses liées à cette transition de société et qui sont frustrés de dire, mais en fait, quand j'en parle à ma famille et quand j'en parle à tout le monde autour de moi, ben, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, je répète et tout. Ils disent que je suis débile, que je suis un bisounours, que c'est super frustrant. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'énergie qui est bouffée sur cette volonté de communiquer autour, qu'il y a énormément d'énergie qui est bouffée aussi sur le fait que ben, dans ce monde de transition, c'est encore énormément bénévole et qu'il y a très peu de financements qui sont enclenchés. Et que donc, avec ces deux facteurs, bah, ça crée des espèces de petites bulles, de petites étincelles à droite à gauche, et puis que les étincelles, en fait, retombent. Donc, c'est là où je te rejoins sur la nécessité de connecter un peu ces étincelles pour que ça puisse faire un gros feu. Mais ouais, du coup.
Oui, c'est très frustrant. C'est très frustrant et on n'en est qu'au balbutiement. C'est-à-dire que même si on a l'impression, parce qu'on est dans cet écosystème, qu'il y a beaucoup de choses qui se font, il faut être réaliste et c'est vrai que c'est embryonnaire. Et que c'est souvent bénévole et que c'est souvent mal financé, mal accompagné. Mais parce qu'on est on est dans le nouveau, on est dans l'expérimentation pure, on est notre propre laboratoire vivant. Et c'est en ça que c'est à la fois fascinant et difficile. Et effectivement, et que donc il y a beaucoup de freins et que donc il y a beaucoup d'incompréhension. Et je crois qu'avec toute ma naïveté initiale, je voulais absolument convaincre autour de moi de ce que je faisais, de la vision que j'avais et de la vision que les autres m'apportaient. Je me disais, mais c'est formidable, regardez. J'ai arrêté parce que je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. Et peut-être qu'au lieu d'essayer de communiquer et de convaincre, incarner, faire, agir, se connecter, ça peut-être que ça marche plus que d'essayer de convaincre par les mots. Je ne sais pas.
Et
C'est une question.
incarner, se connecter avec les gens où ça se, où qui se comprennent
Qui se
directement,
comprennent.
sans friction, rester dans la fluidité et puis après voir avec eux ce qui est faisable ou pas.
Oui, j'ai pas de réponse parce qu'en disant ça, j'entends aussi que du coup, bah oui, mais du coup, ça reste dans l'entre-soi. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être une partie de communication sans volonté de convaincre, de communiquer sur ce qui est fait. Ouvertement et de façon accessible, et après qui veut puise pioche, d'être ouvert dans ces lieux de commun, donc au débat et au désaccord. Le conflit, le désaccord sont nécessaires à cette transformation, et dans ce sens-là, on sera donc en contact de gens avec qui il y aura friction. Par contre, pour avancer soi-même dans ses projets, est-ce qu'il faut forcément se reconnecter à la friction? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas démotivant de toujours se sentir en décalage? J'ai envie de dire par facilité, non, déjà que la force d'optimisme dans ce monde en transformation est très faible, parce qu'effectivement, il faut être réaliste des défis qui nous font face et qui sont majeurs. Il est donc très courageux d'être optimiste aujourd'hui, et je me dis dans ce sens-là, ne pas se rajouter de difficultés, de ne pas perpétuellement aller avec son bâton de pèlerin convaincre autour de nous. Est-ce que c'est pas se fatiguer pour rien? Et je me dis, bah, effectivement, incarner, agir, et puis rester ouvert au débat, au conflit et au désaccord dans les discussions lorsqu'elles se produisent. Et justement, être à l'écoute vraiment de ces désaccords et de s'en nourrir pour accepter d'évoluer aussi.
Et toute cette philosophie là que tu partages, est-ce que par exemple tu étais au dialogue de l'humanité, c'est ça, ce week-end,
C'est ça,
qui
oui.
est une rencontre, enfin tu pourras me dire mieux, mais qui est une rencontre qu'on avait partagée l'année dernière d'ailleurs,
Absolument, oui.
Où ben, il y a plein de gens de plein de lieux différents qui viennent discuter justement sur des sujets prioritaires par rapport à l'humanité,
C'est ça.
l'environnement, la société, tout ça. Est-ce que tu as senti que cette philosophie là était partagée? Ou est-ce que tu as senti une philosophie qui était bien différente de ça
Une
ou...
philosophie de
Tout ce
quoi?
que tu viens de me dire là, en fait, cette notion d'incarner, de rester ouvert, de valoriser la diversité, est-ce que tu as senti cette énergie-là? Pendant cette rencontre
Oui, alors juste déjà pour resituer, les Dialogues en Humanité, c'est un événement qui a lieu, le premier week-end de juillet tous les ans. Moi, j'y vais depuis à peu près 8 ans, à part les années d'expatriation, ça compte pas. Effectivement, ce qui fait commun, en tout cas, et le cap commun, c'est l'envie de replacer la question humaine, sociétale, écologique au cœur et d'amorcer une autre façon de vivre le monde. Donc, dans ce sens-là, il y a une philosophie commune. Par contre, ce qui fait débat et ce qui se joue dans les discussions, dans les ateliers, c'est effectivement ce désaccord. C'est effectivement comment on l'incarne de façon différente, comment malgré ce cap commun, on n'a pas tous la même vision, mais qu'on va donc du coup quand même la mettre en débat et se nourrir les uns des autres. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, on ne pourra pas avancer si on cherche l'exactitude et dans les coopérations et les alliances qu'on fait. Je ne vais pas m'allier avec quelqu'un parce qu'il pense à 100% comme moi. Ce n'est pas possible. Ce qui va créer coopération, c'est coopération dans les désaccords, c'est coopération dans les différences. Et c'est ça qui est le plus gros challenge de l'humanité à venir. C'est qu'il va falloir, on a quand même un destin commun à construire qui est vital pour notre espèce, parce que la Terre, elle s'en remettra. Mais comment on agit et on va dans cette direction commune avec tous ces désaccords, et c'est ce qui se joue dans les discussions. On pourrait croire, oui, tout le monde est assis autour de la table et on est tous d'accord. C'est faux, il y a beaucoup de désaccords. On se rend compte qu'il y a des frictions, que finalement ça pourrait même être des frictions inconciliables, et pourtant on est tous là. Donc si on est tous là, c'est bien qu'il y a une raison, c'est bien qu'on a envie d'être là en commun. Et je crois que l'atelier auquel j'ai participé, Collapsologie Alternative, qui était un débat mouvant, donc où on se positionne pour le oui, pour le non, en réponse à des affirmations qui nous sont proposées, pour moi, c'est très imagé, mais ça représente cette notion de désaccord, mais aussi de se nourrir du désaccord de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, on m'a posé des questions sur lesquelles je me suis positionnée. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous pensez qu'un effondrement est nécessaire? Donc, on se positionne dans le oui, dans le non. Et ensuite, ce que j'ai aimé faire, c'est entendre tous les arguments autour de moi et changer d'avis, évoluer. Heureusement qu'on peut évoluer, heureusement qu'on peut changer d'avis, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la direction, elle est mouvante. Et c'est ensemble qu'on va faire les choses. C'est dans la coopération, dans ce qui se tisse de commun, dans l'entraide, qu'on va avancer. C'est la seule solution. Et donc, qui dit coopération, dit faire avec tout le monde, et donc faire avec nos divergences, et aussi ce qu'il y a de commun.
Et pour faire le rebond, du coup, avec ton deuxième champ d'action, qui est sur la partie individuelle,
ouais.
Est-ce que tu sens justement que l'un des problèmes majeurs qu'il peut y avoir chez l'individuel, c'est ce manque d'ouverture justement sur la diversité, ce manque de tolérance, ce manque d'écoute, ce manque... Ou est-ce que tu sens que ça va et que c'est en train d'évoluer aussi?
C'est impossible de parler de façon générale, parce que alors là, pour le coup, quand on est à l'échelle individuelle, chaque individu a sa propre réponse, donc là, c'est impossible même à observer.
Mais quand on parle de gens qui vivent dans une même ville et dans une même culture, potentiellement, il y a des
axes. Il y a des affinités, et on sent quand même qu'il y a un mouvement. Il y a quand même un mouvement qui se joue, une volonté d'écoute, en tout cas. Et pour moi, je suis peut-être beaucoup trop naïve et optimiste, mais en tout cas, pour moi, la volonté, c'est déjà un premier pas, quoi. Et même si on est très ouvert d'esprit, eh ben, y a des sujets sur lesquels on sera très fermé. Et même si on ne le veut pas. Et c'est d'avoir l'humilité d'accepter ça, en fait. On ne sera jamais parfaitement ouvert d'esprit. On ne sera jamais parfaitement OK avec la différence. Ce ne serait pas vrai. Il y a des fois où ça vient nous toucher là où ça fait mal. Il y a des fois où ça vient toucher des croyances très fortes en nous qu'on n'a pas envie de changer. Eh ben, c'est OK. Et c'est-à-dire, pour moi, accepter à l'échelle en tout cas personnelle, individuelle, hein, d'évoluer, d'avoir envie d'incarner autre chose, de trouver sa place aussi, c'est aussi être très indulgent avec soi et avec les autres. Donc de rester ouvert, mais aussi avec soi et dans ses incohérences et dans le fait que des fois, on ne sera pas ouvert sur tout. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert en général. On peut être ouvert sur certains sujets et puis fermé sur d'autres. D'où l'intérêt des interconnexions, d'où l'intérêt des débats, c'est de se laisser toucher par ça. Et du coup, de s'autoriser et de créer le cadre d'accepter finalement ce qui va venir nous brasser un peu quand même.
Ouais. Et du coup, à l'échelle individuelle, tu proposes aux gens de rentrer dans cette logique d'interrelation, d'interconnexion, dans cette logique de se nourrir de la diversité, de débattre, de tout ça?
Absolument, parce que c'est ma façon d'être. On accompagne tous de façon très différente. Moi, ce qui fait ma spécificité, c'est que j'ai toujours envie d'accompagner les gens dans la phase exploratoire. Je crois que l'interconnexion, l'ouverture d'esprit, la curiosité, ça permet déjà en soi beaucoup de choses. Parce que quand on est curieux, quand on a en tout cas une posture d'ouverture, on va forcément se confronter à un moment donné à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau qui va venir interpeller. Et c'est d'accepter de la traverser et de la laisser nous traverser, même si c'est pas facile, et d'accepter le risque de la transformation du coup. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on cherche au final, la transformation? Donc est-ce qu'il peut y avoir transformation sans, en parfaite symbiose et alignement tout le temps? Je suis pas sûre. Donc qui dit transformation dit ouverture au désaccord, ouverture à la rencontre, à l'autre, à sa diversité. Et en soi, c'est à la fois formidable et très difficile.
Et pour finir la boucle du coup sur la partie plus énergétique et corporelle, est-ce que tu sens en fait, quand tu parles de cette logique de transformation, là on va peut-être en revenir un peu sur le biologique et sur le, tu vois, est-ce que tu sens que sur ces dimensions-là, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la transformation?
Alors là, je suis, pour le coup, on parlait du syndrome de l'imposteur. Là, je me sens pas du tout légitime pour parler, parce
D'accord.
que c'est tout nouveau pour moi d'ouvrir cette porte-là. Donc je me place à la fois dans la posture du débutant et à la fois dans la vision que je peux avoir. C'est essentiel pour moi, la transformation personnelle et collective, elle passera aussi par le rapport au corps. C'est-à-dire qu'on ne, le rap, qui dit rapport au corps dit conscience. C'est-à-dire se remettre dans le corps, c'est aussi être à l'écoute d'une autre façon. Et est-ce qu'on peut vraiment être à l'écoute des autres si on n'est pas à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui se joue, à l'écoute de l'instant? Je ne sais pas. En tout cas, l'approche corporelle permet un outil, permet une façon de le faire. Et ma conviction, c'est que c'est nécessairement relié, le corporel, l'énergétique, l'émotionnel, qui est important aussi, le ressenti et l'intellectuel. C'est la conviction que j'ai, mais encore une fois, c'est qu'une lecture et je peux me tromper. Mais effectivement, j'ai envie d'engager quelque chose dans ce sens-là, parce que pour moi, comme la facilitation peut avoir plusieurs postures, l'écoute et l'ouverture d'esprit, l'ouverture au monde et à ce qui se joue dans la transformation passe aussi par le corps. Peut-être que ça peut être dans je sais pas, le mouvement naturel, la danse, le massage, le soin énergétique, la nutrition. Il y a plein de façons de le faire. Il n'y a pas une seule porte d'entrée. À chacun de trouver ce qui sonne juste. Il n'y a pas de vérité, jamais. En tout cas, c'est l'envie d'explorer ça. Je suis dans la phase exploratoire au niveau corporel, donc j'ai pas de réponse.
T'explores quoi?
En ce moment, ce qui m'appelle très fort, en dehors de ce que je fais, j'ai envie d'accompagner par le massage, donc je me forme en massage et en Reiki. Mais pour moi-même, en tout cas, j'explore la danse. Je pense beaucoup à la danse en ce moment, sans que ça ait été jamais vraiment quelque chose de fort dans ma vie. En tout cas, en ce moment, j'ai envie de danser, mais j'ai envie de danser de multiples façons. Ça peut être quelque chose de très défini, hein, où là, on va se concentrer plutôt sur la convivialité, ou alors quelque chose de très intuitif. Donc en ce moment, j'expérimente beaucoup d'ateliers, des masterclass, notamment en danse contemporaine, qui sont très sensoriels, émotionnels, où on est vraiment basé sur voilà, le ressenti. Et des ateliers de danse un peu voilà, intuitives, où on va vraiment partir à l'écoute de son corps, quoi, finalement. Pour moi, c'est une façon de le faire, mais il pourrait y en avoir plein d'autres.
Ok, la danse, autre chose?
La danse, bien sûr, le yoga depuis plusieurs années, qui est aussi un ancrage, une écoute, une conscience, qui est pour moi du vrai challenge, parce que je suis la première à être tout le temps dans le mouvement, dans l'action, dans l'intellect, dans le plus, 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 l'exploration sans fin. Et c'est une vraie discipline pour moi que de me poser tous les matins sur un tapis de yoga, de respirer et d'accepter l'ancrage et de laisser mûrir tout ça. Et de me dire, sois aussi à l'écoute intimement. Parce que finalement, est-ce que je pourrais vraiment accompagner les autres si je ne m'écoute pas moi-même et si je ne suis pas à l'écoute dans ma globalité? Voilà, c'est important et c'est un effort pour l'instant encore. Mais en tout cas, je sens que c'est nécessaire, c'est important. Donc oui, il y a la danse, il y a le yoga. Voilà, je reçois moi-même des soins énergétiques. Je me fais accompagner aussi, voilà. En naturopathie, en micro-kiné, je teste plein de choses.
Je vais te laisser les clés de nouvelle porte. Je pense que c'est bon, tu peux prendre le relais. Est-ce que là, tu es en train de me griller? Non, mais c'est trop bien.
Non.
C'est super comme exploration, c'est super intéressant.
Oui, voilà, mais c'est jamais fini, en
Et
tout cas.
je t'ai même volé d'ailleurs tes deux autres curiosités pour le moment. Je n'ai pas arrêté de rebondir sur la première. Donc là,
Mais tu
je
les as
t'ouvre.
abordés.
Je t'ouvre
Tu
la porte
les
de deuxième. Ah,
as, en fait, on
d'accord.
les a abordés
La deuxième,
de
alors, c'était
fait.
quoi? Ouais.
La deuxième, c'était. Alors, je ne sais plus dans quel ordre j'ai pris les choses, mais mes trois curiosités, c'était la transformation sociétale qui est en train de se jouer, l'alignement personnel et puis ce que j'appelle un petit peu le côté cerveau droit, c'est-à-dire tout ce qui est un peu intuition, créativité, énergétique, on l'a quand même beaucoup abordé. Et pour moi, dans ce qu'on a dit de l'alignement, se reconnecter à ce qui fait juste, à ce qui sonne juste, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'analyse intellectuelle qui compte. C'est de se reconnecter beaucoup au ressenti, c'est développer la partie droite de notre cerveau qui est présente, autant l'utiliser. Et là aussi, c'est une phase exploratoire de comment on fait pour juste faire confiance à cette partie-là et s'en servir au quotidien. Et pour moi, ça joue de la transformation personnelle, ça aide dans la transformation collective et sociétale, et ça vient jouer bien sûr sur le niveau physique, énergétique, absolument. Tout est lié, donc on l'a quand même un petit peu abordé.
Un tout petit peu abordé. Mmh. Et peut-être, je pense qu'on peut développer un peu sur la partie intuition, parce que c'est peut-être la partie qu'on a le moins discuté. J'ai écouté un podcast, ce que je ne fais pas qu'en enregistrer, j'en écoute aussi beaucoup. Je ne pourrais pas te dire le nom du podcast. Bon, dommage, ce n'est pas grave. Et en gros, ça parlait de la souffrance, mais pas dans le même sens que d'habitude, où souvent... dans des démarches de développement personnel, on dit voilà, il faut accepter la souffrance, machin, la regarder en face pour aller voir ce qu'il y a derrière, tout ça, tout ça. Là, c'était vraiment plus vraiment le fait qu'on range une information qu'on a connotée comme étant négative ou désagréable, alors qu'en fait, on peut aussi faire en sorte de prendre cette information de la même manière qu'une information qui est positive ou qu'une information qui est neutre. Et juste dire, bah, en fait, c'est juste que c'est une couleur différente. Donc, à gauche, il y a le bleu, à droite, il y a le rouge. Ben voilà, ce que je définissais comme étant un mauvais ressenti ou un mauvais sentiment ou une souffrance, ben, c'est juste que c'est plutôt du côté rouge. Et puis les choses qui sont agréables, jouissives ou super, super, super bonnes pour moi, enfin que je définis comme super bonnes pour moi, c'est plus le côté bleu.
Est-ce que ça veut dire être moins réactif alors ? Ou réagir différemment ?
Ben, c'était plutôt par rapport à ça. C'était plutôt de se dire, bon ben en fait, même si je suis du côté rouge, ça ne veut pas dire que je dois... Me lutter contre, déjà, le fait de dire, même si j'ai des pensées négatives ou que je suis dans une souffrance, ça ne veut pas dire qu'il faut que forcément je me mette dans un état où, ah, ça c'est le côté mal, donc du coup il faut que je trouve une solution pour rebasculer du côté bleu. Et plus de se dire, bon, bah, en fait, ok, je sais de quel côté je suis, et puis maintenant je vois ce que j'ai à en faire de ça. Et donc il y a aussi cette notion d'accepter en fait, de pouvoir être triste, de pouvoir souffrir, et puis aussi accepter de pouvoir le partager avec les autres et de le dire aux autres, sans pour autant qu'on se dise, bah, vu que c'est mal, ça va porter du mal aux autres si j'en parle, et donc du coup ça déconnecte. Et oui. En fait, c'est une évolution même au niveau de la culture, quoi. C'est de pouvoir dire, non, là je suis énervé, là je suis triste, là je suis ça, mais je ne vais pas forcément faire chier les autres en le disant, je vais le partager, parce qu'en fait, c'est pas connoté quoi que ce soit.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi une injonction très forte au bonheur et à l'énergie positive. Mais qu'est-ce qu'on fait toutes les autres situations de la vie où ça n'est pas le cas? Et comment on l'accepte comme faisant partie de la vie? Comment on l'accepte sans vouloir la transformer immédiatement? Et comment on avance avec ça aussi? Moi, c'est ça la question qui me reste aujourd'hui, c'est comment on accepte finalement de traverser le négatif, que ce soit pour soi ou au niveau... Du coup, on revient aussi du coup au sociétal et au collectif. Parce que pour moi, ce que tu es en train de dire, c'est aussi accepter du coup une partie d'effondrement, accepter une phase difficile, accepter une émotion difficile, et sans pour autant ne pas le masquer, et quand même là, encore une fois, le partager. Et du coup, peut-être que de fait, par le partage, vient l'acceptation et peut-être la transformation.
Oui, voilà, c'est ça. C'est en connexion aussi avec un livre que je suis en train de lire qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Et je mettrai le nom de l'auteur dans le truc du podcast et je te le donnerai après, mais là je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle jamais les noms. Et en gros, elle explique juste que le fait d'être un être humain, ça veut juste dire qu'on est tout le temps en train de fabuler. Tout le temps. C'est le seul truc qu'on est capable de faire. Donc ça veut dire que dès le moment où on dit que quelque chose est négatif ou est positif, on est déjà en train de créer une histoire. Dès le moment où on est né et où on nous a donné un prénom, on nous a déjà donné le début d'une petite histoire. Et en fait, on est tout le temps dans l'histoire, tout le temps dans l'histoire. Et en fait, ces histoires, vu qu'on les connote d'une certaine manière, je me pince, du coup j'ai une douleur qui est intense, enfin j'ai une sensation qui est intense. Ça a été accroché à l'histoire de se dire, si c'est une sensation intense comme ça, alors c'est une douleur, donc du coup il faut que je me fuis cette sensation-là. Alors que Dans certaines autres cultures, justement, ils sont dans le fait de se dire, bon, bah, en fait, ça n'est qu'une information,
Voilà.
cette sensation. Et qu'est-ce que je fais de cette information-là? Est-ce que du coup, je me dis, ben, ok, je me pose et puis j'écoute ce qu'elle a à me raconter et puis voilà, je ferai un rebond là-dessus ou pas. Mais au moins, du coup, ça, comment dire, le fait d'être un peu moins dans des espèces d'extrêmes d'histoire en se
Ouais.
disant ça, c'est l'histoire du bien, alors dans ce cas-là, je vais que là-dedans, donc la pensée positive, les gens autour de moi, il faut qu'ils soient tous bienveillants et tous ces grands mots. Et puis de l'autre côté, par contre, c'est le monde du mal, là, c'est Dark Vador, c'est le sombre, le côté obscur de la force, et dans ce cas-là, il faut que je le fuis ou que je l'annihile ou que je le fasse exploser. Bah, dans d'autres cultures, qui sont souvent venant de l'Orient plutôt que de chez nous, ça commence à infuser un peu, quoi. De se dire, bon, bah voilà, en fait, il y a cette espèce de paradoxe constant, il y a ce yin, ce yang, on ne sait pas trop l'expliquer, on ne sait pas pourquoi, mais il y a besoin aussi d'avoir ce côté rouge et puis il y a besoin d'avoir ce côté bleu, quoi.
Ouais, ça me parle carrément ce que tu dis, parce que pour moi, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la complexité, ça fait le lien avec l'incohérence et les contradictions. Et pour moi, ça, oui, effectivement, c'est les deux côtés. Tu parlais du yin, du yang, c'est interconnecté, je crois pas qu'on puisse faire sans. Et effectivement, ce culte de la pensée positive, ça vient un petit peu nier cette réalité-là qui fait partie de nous, quoi. Hier, je suis encore tombée sur une référence d'un bouquin, bon, ce qui s'ajoute à ma liste infinie de livres à lire, mais
Même le club.
qui s'appelle, je crois, Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui, ou je ne sais plus quel est le titre exact, mais c'est un peu l'idée. Et en gros, c'est des personnes qui sont allées observer les sagesses des peuples premiers sur comment justement on vit au monde, comment on intègre nos dualités, etc. Et je pense que c'est passionnant. Je connais encore très peu le sujet, mais ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, c'est très lié à l'idée de ben comment on se conçoit comme étant global, et donc en ayant nous-mêmes à la fois du négatif, du positif, et ça n'est qu'une information, et qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, peut-être que de se dire que ça n'est qu'une information, ça permet de ne pas être dans la réaction immédiate et d'accepter le temps de latence. Qui peut être là qu'émerge la sagesse d'ailleurs, je ne sais pas, cet espace avant la réaction qui permet le temps de qu'est-ce que je fais de tout ça et qu'est-ce que ça me dit.
Et toi, du coup, tu arrives à gérer justement quand tu es plus dans le côté rouge,
Non,
d'arriver à
évidemment.
l'accepter. Non, non,
C'est
non, mais
un
moi
travail.
non plus, hein, j'arrive pas.
C'est un cheminement, évidemment, quoi. Je suis la première à réagir, à rebondir, à ne pas accepter. Mais déjà, de prendre conscience, c'est un déclic. C'est un déclic récent pour ma part. Et effectivement, c'est un challenge, hein. C'est un challenge de ne pas réagir, c'est un challenge d'accepter sa part sombre, son incohérence personnelle et chez les autres aussi. Du coup, l'indulgence. Ouais, non, là, effectivement, c'est un chemin de tous les jours. Et je me sentirais, je crois, toujours débutante parce que y a pas de, je ne crois pas que ce soit jamais acquis. C'est une veille constante finalement à avoir. Et tout simplement de le savoir, ça permet une indulgence de soi, des autres.
C'est vrai que pour faire le rebond sur ce que tu disais par rapport à l'intuition, enfin l'importance de développer l'intuition, tout à l'heure quand j'étais devant ma porte en train d'attendre que le serrurier arrive pour ouvrir, et du coup j'ai attendu pendant 1 heure, parce qu'il m'a dit qu'il arrivait dans 1 demi-heure, il arrivait 1 heure après, et que du coup j'avais rien à faire, parce que j'avais plus de batterie bientôt sur mon téléphone, il fallait que j'attende, parce que si jamais il m'appelait, enfin bref, j'ai tout bloqué. Du coup je me suis dit, allez, je vais me mettre comme si je méditais, je vais me poser un peu, je vais laisser glisser. Et c'était vraiment intéressant de voir à ce moment-là que j'étais du côté rouge parce que c'était une situation qui était désagréable, mais c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Et de voir que quand on se pose comme ça et qu'on essaye d'arrêter de se raconter des histoires, parce que sinon les histoires c'est toujours les mêmes, c'est il va jamais me rappeler, donc du coup je vais devoir attendre, donc du coup je vais rater le podcast avec Élise, puis de toute façon t'es con d'avoir oublié ses clés, parce que t'étais encore pas non plus vraiment conscient quand t'étais en train de sortir de chez toi, alors que pourtant tu fais tout machin, bah, bref, et ça s'arrête jamais.
Et ça n'a pas de fin.
Et du coup les histoires se rajoutent, se rajoutent, se rajoutent, et c'est là où du coup on part dans le rouge, mais parce qu'on s'est soi-même créé des histoires dans sa tête, et que oui, si jamais on se dit, bon allez, vas-y, maintenant t'arrêtes tout le mode histoire, tu te poses juste et tu essaies de te concentrer sur le corps, justement, les sensations que tu as. Puis au bout d'un moment, quand même, bon, ça continue à agiter, bien entendu, parce que je suis très loin de maîtriser mon cerveau, mais tu te dis quand même, bah, en fait, là, je suis quand même posé sur une chaise devant chez moi, il fait bon, j'ai mal nulle part, j'ai pas faim, j'ai pas soif, j'ai pas envie d'aller aux toilettes. Donc, niveau information du corps et au niveau de l'intuition brute, là,
Ça
en
va.
fait, ça va, tout va bien. où tu dis ah bon ok tout va bien. Donc là ça fait émerger d'autres pensées qui sont un peu différentes. C'est ah
oui,
en fait
c'est
tout
vrai.
Va bien, tout va bien, d'accord. Puis après t'as une autre pensée qui vient qui dit oh putain là t'es en train, tu viens de perdre une heure, tu vois, t'avais des mails à faire, t'avais du travail à faire, là t'es en train de perdre ton temps. Et puis après du coup tu reviens, tu te remets, tu fais j'ai quand même mal nulle part, donc du coup ça va, donc en fait je suis bien. Du coup je peux profiter, peut-être de profiter de la oh, tiens, il y a la petite brise qui est là et c'est agréable. Et...
C'est rigolo ce que tu dis, parce que ça me fait penser au processus de méditation, je sais pas pourquoi. Quand on apprend à méditer au début, on est tout le temps traversé par une multitude de pensées, et finalement c'est au début l'effort qu'on fait, c'est de se dire ah oui, non, je reviens en conscience à ma respiration, au moment présent, à mon souffle, etc., aux sensations autour de moi, au bruit peut-être autour de moi. Et ça réancre dans le présent. Et ça me fait penser exactement à ce que tu es en train d'écrire.
Oui, c'est
là, c'est pour l'intuition et les histoires qu'on se raconte, mais c'est finalement la même chose. C'est-à-dire, c'est laisser passer finalement, sans le conscientiser, le mental, les histoires qu'on se raconte. Et revenir à la sensation. Finalement, c'est à peu près le même processus. C'est comment on revient, on décide de court-circuiter le flow mental et de revenir au ressenti, en fait. Et c'est pas si facile. Donc, au début, c'est un effort conscient de se dire lâche l'histoire que tu es en train de te créer là et reviens dans ton corps, reviens dans tes sensations. Et je crois que c'est aussi une question de culture. Est-ce qu'on est habitué à faire confiance à ces sensations? Je sais pas. Peut-être qu'elles ont toujours été un petit peu là. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on peut muscler, qu'on peut développer, cette intuition, cette écoute des ressentis et de ce qu'on sent juste. Peut-être qu'on peut le développer et après s'en servir. C'est-à-dire que la puissance de l'intellect qui fait aussi notre force n'est pas la seule. Et qu'on peut aussi faire confiance à l'autre partie. Non, la sensation, l'émotionnel, la perception n'est pas forcément un ennemi. Au contraire, ça peut-être même être quelque chose qui nous permet de... voilà, d'aller plus loin et de sortir d'un mental qui peut être aussi des fois handicapant.
Ouais, c'est ça. Et ça rejoint en plus ce que tu disais au tout début sur ton burn-out que tu avais fait.
Ouais.
C'est qu'au final, tu as plein d'informations certainement que ton corps t'a donné, mais qui était une information peut-être, comment dire, côté bleu, du coup, c'est des informations qui sont agréables, qui sont intéressantes, du coup, forcément, mais qui servent peut-être à te dire bon, là, ce que tu es en train de faire, c'est cool. Continue comme ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis après, d'autre côté, les informations rouges, pas forcément juste pour dire fuis-les, ça va pas, c'est peut-être juste pour dire tiens, là, c'est pour te donner l'information que tu es en train de te rapprocher d'un mur et qu'il est peut-être temps de faire un tout petit virage sur le côté. Et puis du
c'est
coup,
ça.
tu l'écoutes pas et tu prends pas le virage.
Du
et comme on fait souvent dans la société, on attend que l'accident arrive. Et après, boum, là, il y a une grosse lumière rouge qui s'allume et celle-là, elle te coince complètement.
Ouais,
et
puis t'es dans le mur. Quoi.
C'est ça, et t'es dans le mur et au final, c'est certainement pas une grosse lumière bleue qui t'aurait fait t'arrêter parce que là, justement, ça t'entraîne à continuer à avancer. Donc, c'est forcément quelque chose qui est lié à la souffrance et à de la douleur. Donc, du coup, ça te coince. Et après, quand t'es coincé, c'est à ce moment-là que tu n'as pas d'autre choix que de te dire « Bon, maintenant que je suis coincé, il va falloir forcément que je réfléchisse à des virages parce que je ne vais pas rester à foncer la tête coincée dans le mur. »
C'est ça.
C'est
aussi peut-être sortir des extrêmes, du coup. C'est ça
ouais.
que je trouve intéressant. C'est peut-être aussi sortir de soit un projet 100% fascinant, soit je suis dans le burn-out et dans le rouge lumineux jusqu'au mur. Il y a peut-être quelque chose, du coup, qui, en étant à l'écoute de la sensation, de l'intuition, qui se crée dans l'équilibre au milieu. C'est-à-dire que peut-être qu'en étant à la fois ouvert sur l'extérieur, mais aussi ouvert sur le ressenti et l'intuition, peut-être que finalement, on est capable de percevoir les signaux avant et d'avoir un temps de latence qui permet de décider ce qu'on en fait et ensuite d'agir en conscience. Tout ça, finalement, ça revient à la conscience, une conscience collective, sociétale, mais aussi individuelle. Et la conscience, pour moi, elle se développe aussi par l'intuition. C'est-à-dire que c'est apprendre à ressentir, finalement, qu'est-ce que l'environnement et notre corps nous dit, quoi. Et ça, tout ça, on l'a tous. Il n'y a pas certaines personnes qui sont plus intuitives que d'autres, c'est pas vrai. C'est que juste que ça se travaille, ça se développe, et c'est aussi apprendre à faire confiance à ça. Et effectivement, ma conviction, c'est que plus on apprend à développer ça, plus on peut peut-être éviter ces extrêmes-là, de rouge, de bleu, et de passer son temps à jongler d'un truc à l'autre. Peut-être
d'un
que finalement,
souvent,
d'un extrême
ouais.
à l'autre, ouais, qu'il y a peut-être quelque chose comme ça, un peu cool, et des fois moins cool, au milieu, qu'il y a quelque chose qui se joue et qui se tisse là, et qui est intéressant. Je sais pas, c'est à creuser, mais...
Installer un peu plus de souplesse, grâce à un peu plus d'écoute
peut-être,
qu'on aurait.
Peut-être que voilà, l'intuition permet l'écoute et donc la souplesse dans nos actions, nos réactions Et finalement, le maintien d'un alignement continu, c'est-à-dire que c'est bien sympa de trouver un alignement à un moment donné, mais quels sont les outils et qu'est-ce qu'on met en place pour se garantir de rester comme ça en éveil, en écoute, et de ne pas se reperdre, en fait. Et
Il faut
ça,
que ça parte très vite.
parce que ça peut partir très très vite, et les réflexes sont forts et ancrés. Donc peut-être que de développer l'intuition et ses ressentis, et ben, c'est se garantir que finalement, c'est peut-être se faire un cadeau à soi-même de se dire, ben, ce sera mon garde-fou, et peut-être que ça me permettra de rester à peu près cohérent et OK avec moi-même et mes projets.
Et même si tout est systémique, je me permets quand même de voir une priorité sur peut-être ce développement de l'intuition, dans le sens où on est passé par des tonnes et des tonnes d'années dans notre culture. C'est pareil, c'était dans le même podcast qu'avant, mais je crois que je vais mettre le nom du podcast.
Il a l'air super.
où il parlait justement de le fait qu'on était dans une société qui était purement rationnelle.
Ouais.
Donc tout doit passer par la case cerveau gauche et mental, tout doit être expliqué, doit être calculé. Statistifié, je ne sais pas si on peut le dire, mais je le dis, quantifié, enfin tout carré,
Ouais.
tout explicable. Et puis surtout, si jamais il y a d'autres informations qui sont de l'ordre de tiens, j'ai une faiblesse, je me sens pas bien, j'ai envie de pleurer et tout. Non, non, on est des gens durs, on doit avancer. Et on est passé par tellement d'années de pur rationnel, où on n'autorisait rien du tout d'émotionnel, que dès le moment où eh ben, on s'est enfermé là-dedans, bah là, il faut tout qu'on rouvre, quoi. Et pour arriver à trouver un équilibre. Donc là, on est complètement parti du côté rationnel. Je ne sais pas si c'est le rouge ou bleu, mais pour le moment, je dirais plus rouge. Et du coup, là, il faut qu'on arrive à réouvrir du côté bleu, mais il faut forcément mettre un effort là-dessus pour arriver à retrouver quelque chose, quoi. Donc c'est peut-être une priorité de développer cette intuition, ce ressenti.
Ouais, et puis, enfin, je ne sais pas si c'est une priorité, mais en tout cas, je me rends bien compte qu'on a deux parties de cerveau, et je me rends bien compte qu'on a les deux, qu'on est rationnel et qu'on a une part intuitive, et que effectivement, dans la société qu'on a, elle est sous-utilisée, mais dans d'autres, non. Dans d'autres, l'intuitif, le cerveau droit, est bien plus utilisé, et on s'appuie beaucoup dessus. Et je trouve qu'il y a une source d'inspiration là-dedans, parce qu'effectivement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une joie à se reconnecter à ça, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une joie à se reconnecter à la part de créativité, d'intuition, de non-sérieux, de... Parce qu'on est très sérieux quand même dans tout ça, là. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter un petit peu d'expérimentation, de ludique, de plaisir, d'enthousiasme, d'émotion? Et non, l'émotion n'est pas forcément négative. Arrêtons. Et l'émotion peut être tout à fait un allié de l'intellect et inversement. Et c'est vrai que... C'est peut-être mon côté, j'aime bien un peu casser les codes, mais j'ai très envie un jour, j'espère que j'arriverai à accompagner aussi par ce biais-là. C'est-à-dire d'accompagner les gens à se reconnecter à ça, à se reconnecter au potentiel de joie, de créativité et d'intuition qu'ils ont par différents outils, différentes méthodes, qui peuvent être aussi corporelles d'ailleurs, et ou créatives, artistiques. Mais en tout cas, je crois que c'est se priver d'une part forte de potentiel en nous que de ne pas l'explorer. Et je crois que même au niveau collectif et global, ça peut apporter beaucoup. Et je crois que c'est André Malraux qui disait « Le siècle prochain sera spirituel ou ne sera pas ». C'est-à-dire que l'intellect, on a fait, on sait faire rationaliser. Mais allons explorer le reste. Est-ce qu'il n'y a pas une sagesse à aller puiser là-dedans aussi, d'ailleurs?
Et pour faire la transition là-dessus et en même temps poser la dernière question de la discussion. Parce que je pense que du coup ça condense un peu tout. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est en train de se passer autour de l'évolution vers le transhumanisme, vers le fait d'être augmenté complètement par le numérique et par la machine, le fait de peut-être même aller complètement sortir de son corps et se télécharger dans quelque chose de numérique pour aller trouver cette espèce d'unité cérébrale numérique? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Le syndrome de l'imposteur fait que j'ai toujours du mal à m'exprimer sur un sujet si je n'ai pas l'impression d'avoir lu une multitude de choses. Donc c'est une difficulté pour moi, mais je vais essayer de répondre quand
Au
même.
ressenti, à l'intuition, au
À l'intuition, au pire. ce qui me vient là spontanément, c'est que si c'est la course du toujours plus pour le toujours plus, moi c'est le pourquoi qui me revient. Pourquoi en fait? À quoi ça servirait? Quel est l'apport, la valeur ajoutée? J'ai besoin de le comprendre pour avoir un avis. Parce que pour moi, si c'est un outil au service d'autre chose de plus humain, sociétal, écologique, respectueux, pourquoi pas? Éthique. Quelle est l'éthique là derrière? Mais j'ai besoin de comprendre quel est le pourquoi. Parce que si c'est le toujours plus, Alors là, on est bien loin du changement de paradigme, parce que pour moi, dans le changement de paradigme, il y a le ralentissement nécessaire. Et donc, du coup, dans le toujours plus, mais pourquoi faire? Quelle sera l'étape d'après, en fait? Et pourquoi il faudra toujours être augmenté? Est-ce qu'être soi ne suffit pas? Est-ce que ce n'est pas le message qu'on transmet, du coup? Bien sûr que je suis la première à me servir des outils et qu'ils me servent et que je suis très heureuse d'avoir pu m'en servir pour me reconnecter à des personnes, à des communautés, et ça m'a apporté beaucoup. Mais dans quelle mesure ça devient une finalité? Voilà, c'est la question que je me pose. Et est-ce que quelle est la culture et le message qu'il y a derrière? Et on en revient à la culture commune, c'est-à-dire quel est le pourquoi on fait les choses, quelle est la finalité et qu'est-ce qu'on transmet comme valeur? Et là-dedans, j'ai toujours un petit peu peur de la perfection, de l'infinitude. Est-ce qu'au contraire, c'est pas l'imperfection et la conscience de notre finitude qui nous permet l'impulsion et la volonté de changement? Est-ce que si tout était parfait et infini, on n'en serait pas renforcé dans nos travers? Je sais pas. Ça me pose cette question-là, en fait, de la perfection, du toujours plus. Mais peut-être que je me trompe parce que je connais effectivement très mal le sujet. Mais c'est en tout cas l'impression que ça me donne. Et en fait, j'aurais toujours envie de dire oui, pourquoi pas, essayons, mais toujours avec l'esprit critique. Je suis pour, toujours pour critiquer, recritiquer. L'esprit critique, c'est vraiment important, le discernement. Expérimenter, oui, mais toujours avec éthique, conscience. On en revient à la conscience finalement. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Pourquoi? Dans quel but? Et en conscience de qui? Pourquoi? Et avec le respect de quoi? Voilà, c'est important, je crois.
La conscience.
Le socle commun, oui.
Socle commun conscience. Je garderai ces mots pour la fin. Parfait. Eh bien, écoute, Élise, merci beaucoup pour cette discussion,
Merci à
pleine
toi.
de contenu, pleine de réflexion.
C'était super.
Et puis, il faudra que tu me donnes, après la discussion, la personne qui pour toi est inspirante. Parce que du coup, je me dis que maintenant, à chaque fois, quand je discute avec quelqu'un, ça peut être cool que cette personne me donne une personne qui l'inspire elle-même. Et comme ça, hop, ça peut rentrer dans la boucle de discussion
Ouais,
pour un prochain épisode.
j'en ai
Donc,
plusieurs en
tu
tête,
pourras
donc
me donner des personnes que je peux
avec
rencontrer.
plaisir.
Cool, parfait. Eh bien, merci bien. Et puis,
Merci à toi.
à bientôt.
À bientôt.
Encore une fois, un épisode vraiment plein de curiosité, passionnant, une personne très très intéressante. Merci Élise d'avoir accepté d'échanger avec moi. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir rencontrer autant de gens sur une ville comme Lyon. Peut-être qu'il va falloir que j'aille aussi voir ailleurs ce qui se passe, mais en tout cas notre ville est fantastique pour les rencontres et pour les gens inspirants. Régulièrement, je continue à proposer de nouveaux interviews. Là, sur l'été, je vais pouvoir avoir un peu plus de temps pour rencontrer d'autres personnes tout autant inspirantes. Ça va être super. Je prépare ça et je vous tiens au courant très prochainement. Et pour être tenu au courant, justement, comme à chaque fois, le petit rappel. Donc, ces podcasts sont enregistrés sur une application qui s'appelle Anchor, Anchor, que vous pouvez télécharger sur vos smartphones et sur lesquels vous pouvez écouter les podcasts de Nouvelle Porte, mais aussi plein d'autres podcasts. Si vous préférez vous abonner au podcast, vous pouvez utiliser Google Podcasts, iTunes Music, aussi Spotify maintenant, et puis plein d'autres plateformes de podcasts différentes et variées. Comme ça, au moins, vous choisissez et vous utilisez comme vous avez envie. Et en plus de ça, vous recevez automatiquement les notifications quand il y a un nouvel épisode. Voilà, donc les podcasts vont continuer sur l'été. Après Élise, je ne sais pas encore qui ce sera, mais en tout cas, si vous avez envie de partager des curiosités, alors n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez envie de proposer aussi des personnes que j'aille interviewer, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me dire n'importe qui, même Barack Obama, et je peux toujours essayer de le contacter et d'aller pousser la chose. Il n'y a pas de limite à la curiosité. Voilà. Passez une bonne semaine et puis on se dit à très bientôt, hein? Bon. Et au passage, je vous ai laissé un petit bonus. Voilà, une curiosité bonus, la serrurerie qui arrive juste après. J'espère que vous apprécierez. En tout cas, moi, j'ai apprécié, on va dire. Allez, je vous laisse avec la serrurerie. À bientôt. Spécialement pour cet épisode, une petite curiosité bonus qui vient des aléas du jour et qui est aussi une confession que j'ai à vous faire. Si jamais l'épisode s'est fait à la maison, c'est aussi parce que ce matin, en partant de chez moi, je me suis enfermé dehors. Voilà, j'ai oublié les clés à l'intérieur. Donc, forcément, pas d'autre choix que d'appeler le serrurier quand sa copine est en déplacement en dehors de Lyon pendant 3 jours. Ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir sur le moment de me dire, tiens, qu'est-ce qui fait que là, comme ça, tu fermes ta porte sans utiliser ta clé? Donc voilà, la curiosité que je voulais rajouter, c'était justement sur ce processus de serrurerie, parce que ça a duré à peu près 10 secondes à tout casser, et justement, ça n'a pas tout cassé, parce qu'en fait, il faut savoir, voilà. Si jamais vous voulez être plus tranquille et payer moins cher, si jamais vous êtes un petit peu tête en l'air comme moi de temps en temps et que vous oubliez des choses, sachez que si vous avez une porte qui claque toute seule et que vous ne partez pas longtemps, claquez-la juste et fermez pas forcément à clé. Parce qu'après, derrière le serrurier, pour arriver à ouvrir la porte en utilisant une sorte de petite plaque de PVC très souple, un peu comme une feuille de PVC. Et en fait, il va placer cette feuille entre la porte et la jointure du mur, et en tapant en fait avec le pied sur le bas de la porte, il va faire en sorte de pouvoir bien insérer cette feuille entre le loquet et la porte. Et vu que les loquets souvent sont sur une forme arrondie et qui sont orientés vers l'ouverture, et bien en fait cette feuille de PVC peut faire pression contre le loquet, le rentrer, ce qui fait que du coup ça ouvre la porte. Voilà. Donc, bon, après, il y a un vrai coup de main à avoir parce que c'était express, mais expert. Et voilà. Et donc, j'en ai eu pour 70 euros. Là-dessus aussi, vous pourrez connaître le prix. Normalement, c'est 120 euros. Mais là, 70 euros parce que je passais par la régie dans laquelle j'habite. J'aurais demandé le contact. Voilà, c'était une petite anecdote et une petite info aussi parce que je pense que je suis tête en l'air, mais que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, donc sachez-le. Vous pouvez tenter la plaque de PVC solo ou sinon ben, évitez de fermer la porte à clé quand vous ne partez pas trop loin. Ça peut toujours sauver une porte. Voilà. Allez, à bientôt!